Jean-Baptiste Galopin, bonjour.
Bonjour.
C'est la révolution soudanaise qui a été visée par cette attaque, a déclaré le gouvernement soudanais après l'attentat du 9 mars. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Écoutez, pour l'instant, les responsabilités ne sont pas établies. Une partie de la scène politique a rapidement dénoncé les islamistes et les membres de l'ancien régime. Mais si l'objectif était de déstabiliser l'alliance entre les forces de la liberté et du changement et les militaires, ça a échoué puisque on a vu des manifestations de soutien à Hamdok. S'il y a une leçon que Hamdok peut tirer de cette attaque, c'est qu'il est vulnérable, que son avenir dépend de la bonne volonté et de la protection des généraux.
Le régime de transition est bicéphale. Il y a un conseil de souveraineté dirigé par le général Al-Burhan et puis un gouvernement conduit par le premier ministre Abdallah Hamdok. Alors, 7 mois après le début de cette transition, quel est l'organe qui prend le dessus sur l'autre ?
Écoutez, selon la logique de la déclaration constitutionnelle d'août 2019, c'est le gouvernement des civils qui a l'autorité exécutive suprême. Mais de fait, ces derniers mois, on a vu le conseil des souveraineté qui est à majorité civile mais quand même sous l'influence des généraux. On a vu ce conseil de souveraineté grignoter le pouvoir petit à petit, notamment à l'occasion des négociations de paix qui ont lieu à Djouba aujourd'hui.
Les négociations avec les groupes rebelles du Darfour et du Sud. Hein.
Voilà, et en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où les groupes rebelles demandent à ce qu'on change la durée de la transition, à ce qu'on change la composition du Conseil de souveraineté, à ce qu'on change la composition du gouvernement. Et de fait, il n'y a plus de cadre en fait institutionnel qui fasse consensus aujourd'hui. Une partie de cette situation est due au fait que les forces de la liberté et du changement qui soutiennent Hamdok, en fait, sont incapables de prendre des décisions car elles sont divisées entre elles. Et en fait, aujourd'hui, on a une situation où les généraux, notamment Abdel Fattah Al-Burhan, qui représente l'armée, et Mohamed Hamdan Dagalo, qui est connu sous le nom de Hamati, qui dirige des milices paramilitaires. Ces généraux, en fait, profitent de la situation pour rétablir leur pouvoir. Et aujourd'hui, il y a de nombreux signes très inquiétants, notamment le fait qu'il a été rapporté dans les médias hier que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis avaient arrêté de livrer l'aide au gouvernement, ce qui suggère peut-être une tentative de pousser à la crise. On a notamment le fait que l'armée ouvre des boulangeries, que Hamati inaugure des cliniques. Toute une situation qui, en fait, suggère que les généraux se positionnent en sauveurs face à une crise économique qui ne fait que s'exacerber.
Et peut-on dire que le général Al-Burhan et Hemeti, le chef des puissantes milices des forces d'action rapide, tirent prétexte des négociations avec les groupes rebelles du Darfour et du Sud pour modifier le calendrier de la transition et pour affaiblir le gouvernement d'Abdallah Hamdok ?
Oui, effectivement, avec ces négociations de paix, ça donne tout le pouvoir aux négociateurs du gouvernement et aux groupes armés de déterminer le calendrier de la transition.
Et quand le général Al-Burhan se rapproche d'Israël, il ne consulte pas son premier ministre, Abdallah Hamdok.
Oui, écoutez, ça c'est un épisode qui en dit long sur l'état des forces en présence. L'objectif pour Burhan, en fait, au-delà de la normalisation avec Israël, c'est en fait de se rapprocher des États-Unis et d'obtenir des États-Unis qu'ils enlèvent le Soudan de la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Ce que Hamdok a essayé de faire depuis plusieurs mois et pour l'instant, il a échoué. Donc en fait, d'une part, cet épisode témoigne du fait que la politique étrangère n'est pas dans les mains du gouvernement de Hamdok. D'autre part, ça témoigne d'une stratégie de Burhan qui consiste à essayer de marquer des points pour montrer qu'il a la situation en main. Par ailleurs, cet épisode révèle quelque chose de la stratégie des Émirats Arabes Unis qui ont en fait organisé cette rencontre entre Burhan et Netanyahou. Pour les Émirats Arabes Unis, en fait, ça permet de renforcer les militaires au détriment de Hamdok et des civils.
Officiellement, la transition doit déboucher d'ici 2 ans sur des élections libres, mais le calendrier va-t-il être respecté ?
Écoutez, j'en doute aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a plusieurs obstacles. D'une part, le fait que les groupes armés aujourd'hui à Djouba demandent une extension de la transition. D'autre part, il faut être clair qu'en fait, les forces de la liberté et du changement ne sont pas très pressées d'avoir à faire face à un défi électoral, puisqu'en fait, elles représentent quand même une base sociale très restreinte, puisque ce sont des partis qui sont largement dominés par l'élite un peu socio-culturelle soudanaise des régions du centre du pays et qui ont très peu d'influence dans les régions périphériques. Donc en fait, on est dans une situation où on parle de transition démocratique, mais il n'y a pas grand monde sur la scène politique qui est pressé d'arriver aux élections. Avec une exception, qui est le parti Ouma, qui est un parti qui a été en perte de vitesse politique récemment, mais qui s'est rapproché des milices paramilitaires de Hamati et qui quand même a, en fait, se base sur une confrérie soufie et donc a quand même une capacité de mobilisation importante.
Le parti de l'ancien Premier ministre, Sadek Al-Mahdi, qui n'est plus tout jeune mais qui a encore une carte à jouer ?
Écoutez, oui, la carte qu'il a jouée est due au fait que voilà, il a une capacité de mobilisation liée à son statut de leader religieux, liée aussi au fait qu'il est proche des Émirats Arabes Unis, tout comme une partie des forces de la liberté et du changement, ainsi que des milices paramilitaires. Donc le jeu qu'il essaie de jouer aujourd'hui, c'est d'arriver à des élections anticipées où il sait qu'il a plus de chances d'obtenir des sièges que d'autres partis qui ont pu en fait monter en puissance à l'occasion du soulèvement révolutionnaire, mais qui en fait n'ont pas réussi à capitaliser là-dessus et à se construire une base sociale ou une organisation plus importante.
Jean-Baptiste Galopin, merci.